collatéral. Frappe chirurgicale. Flexi, sécurité. Rigueur, réforme. Ah, excuse-moi, Daniel, je t'avais pas vu. J'étais en train de faire mes petits exercices quotidiens de sémantique amusante. Dis-moi, je t'appelle au sujet de l'émission là, d'aujourd'hui, je viens juste de terminer de l'écouter. Mais au Mexique, ils ont Internet, non? Oui? Non, je suppose. Donc, il suffirait de se connecter sur leur site, là. Et puis, tu vois où je veux en venir, non? Envoyer un petit email, disons, au bon moment, mais au mauvais endroit. Hein? Voilà, bon. Je retournerai mes exercices, hein. Tu devrais en faire, c'est très bon pour maintenir en forme. Flexi, sécurité, rigueur, réforme. Allez, au revoir.
Bonjour, Dominique, en direct de Bretignolles-sur-Mer, en Vendée. Bon, je viens de passer une heure dans l'eau. Ciel bleu, vent faible, petite houle, 50 à 80 cm. Et pas d'arrivée de Mexicains par voie maritime. Tout va bien, surfeur on the border, continue la surveillance.
Je voudrais lancer un cri d'alarme quand même, parce que je suis régulièrement en contact avec les FARC, par signaux de fumée, bien sûr, puisqu'ils ne veulent plus décrocher leur téléphone. Et en fait, ce qui se prépare est assez dramatique. Il faut quand même que tout le monde le sache. La tactique actuellement des FARC est de faire venir Nicolas Sarkozy en Colombie et l'échanger contre Ingrid Betancourt. Moi, ça m'arrangerait bien personnellement, mais enfin, il faut quand même pas qu'on perde un président pareil. Et d'autant qu'il ne partira pas seul, il sera avec son Saint-Bernard Kouchner. Donc il faut prévenir les autorités quand même de ce qui se trame là-bas. Voilà, merci pour tes émissions, à bientôt, c'était Maurice Anduze.
Oui, bonjour, ici Erwan de Brest. Je vous appelle parce que j'écoutais l'émission avec Glenn là, ce vendredi. Et après avoir réécouté sur Internet, je me suis dit, après tout, je me demande si vous n'avez pas rencontré au fait Brice Hortefeux qui s'est fait passer pour Glenn. Comme Daniel, tu disais que M. Hortefeux passait ses vacances à la frontière mexicaine, je me suis dit que pour s'occuper pendant ses vacances, il surveillerait la frontière mexicaine, quoi.
Bonjour. Je comprends que pour l'esprit des Jeux Olympiques, le badge pour un monde meilleur soit respectueux de l'esprit, donc. Mais c'est un peu léger. Moi, j'aurais préféré un truc du style « Si tu fais Parisette, t'auras pas de dessert ». Ça, déjà, c'était plus incisif, non? Il y avait sinon aussi « Ouh là là, c'est pas gentil de faire du mal ». Mais c'est plus négatif, déjà. Alors que pour un monde meilleur, c'est positif. Et un autre truc, ça aurait été aussi « Chérie, où t'as mis les clés de la bagnole ?» Mais on aurait risqué de pas comprendre. Voilà. C'est Antoine. C'est moi, Antoine. C'est pour faire avancer l'humanité. Ouais. Désolé, hein.
Oui, bonjour à tous. Un petit chansonneur de la manifestation de samedi contre l'expulsion jetable. Voilà, je vous laisse écouter. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus.
Oui, manifestation contre l'immigration jetable samedi à Paris et dans un certain nombre de villes en France. On va laisser de côté les nouvelles de la guerre du feu, vous en aurez tout à l'heure à 16h, et aux partisans du monde meilleur dont cet auditeur vient de parler. Et on va continuer aujourd'hui notre route vers Tijuana. On est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive à Tijuana, donc au terme de 3200 kilomètres de frontière entre le Mexique et les États-Unis. Mais on va aller faire un tour dans cette manif de samedi avec Pascal Pascariello, dans cette manif contre l'immigration jetable, parce qu'effectivement, on va voir que beaucoup des choses que nous racontons sur l'immigration, sur cette longue frontière, ressemblent beaucoup à ce qui se passe dans notre hexagone, que ce soit dans la répression, que ce soit dans l'exploitation de cette main-d'œuvre. Là-bas, on ne dit pas sans papier, on dit clandestin, mais enfin, beaucoup de choses se ressemblent, on va le voir. Et puis, on va faire connaissance avec les jeunes pop. Vous savez pas qui c'est, les jeunes pop? Eh bien, c'est des jeunes chouettes, des jeunes qui courent. Vous allez voir comment et pourquoi. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, monsieur Mermet. Très bien votre émission. J'étais il y a 15 jours de ça aux États-Unis, à Las Vegas, dans le Nevada, et je me posais une petite question. Comment ça se fait que les prostituées d'origine philippine et latino posent pas de problème aux Américains? À méditer, hein. Allez, à très bientôt et bon courage. Continuez votre émission.
Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils sont cons, ces pirates somaliens. Je viens d'entendre là que ils ont enlevé, à raisonner, un yacht appartenant au groupe Bolloré. Ils sont cons, ces mecs-là. Ils n'auraient pas pu nous faire une faveur et la raisonner quand il y avait le nain de jardin à bord. Bon, c'est encore Maurice Anduze. Allez, bonsoir.
Oui, bonjour, Gilles de Lausanne, en Suisse, qui écoute toujours en différé par le web. À propos de la dernière émission sur En route pour Tijuana, Glenn is watching you. Back out! Back out! Ah, ah. Et merci aux sept bergers allemands. On atteint certains sommets. Allez, back out, back out.
Pour un monde meilleur. Pour un monde meilleur, on est des sportifs de gauche engagés, impliqués dans toutes les grandes causes. On est de gauche, des sportifs de gauche. Pour un monde meilleur.
Alors, samedi, manif contre l'immigration jetable, mais c'était pas la seule manifestation. Il y avait une autre manifestation dans le même coin avec les jeunes populaires. Les jeunes populaires des facs parisiennes s'étaient réunis. Ils étaient, selon les observateurs, enfin selon notre observatrice à nous, Pascal Pascariello, une vingtaine peut-être, une trentaine. Et ils s'étaient réunis, pourquoi donc, ces jeunes populaires de l'UMP, c'est les jeunes de l'UMP, eh bien, pour un footing pour les réformes. Voilà, on fait un footing pour les réformes. Eh bien, nous étions là, enfin, du moins, Pascal était là.
Bonjour, on organise un grand footing avec les jeunes populaires, avec les jeunes populaires des facs parisiennes. Un footing jusqu'au Champ de Mars pour soutenir et pour expliquer les réformes du président de la République et du gouvernement.
D'accord, parce que les jeunes populaires, comme en ce moment, il y a aussi des manifestations de jeunes lycéens.
Là, nous sommes les jeunes populaires, c'est les jeunes de l'UMP pour soutenir les réformes du gouvernement. Et puis surtout, le message qu'on veut passer à travers le footing, c'est donner une image dynamique. C'est l'image du président de la République et les jeunes populaires, on est en mouvement. Les jeunes populaires sont en action, les jeunes populaires réfléchissent et les jeunes populaires soutiennent le gouvernement. C'est une opération symbolique, mais c'est pour dire que le président de la République est en mouvement et que les jeunes de l'UMP, qui est quand même le parti que Nicolas a fait vivre, le soutiennent dans un esprit de dynamique. Quand on met des réformes difficiles, c'est long. Les effets positifs, ce n'est pas du jour au lendemain. Donc il faut expliquer, prendre le temps d'aller sur le terrain pour faire de la pédagogie. Il faut assurer le service après-vente. Et ça, je pense que ça peut être un des rôles de l'UMP, d'expliquer.
On veut courir, parce que la course est un sport national.
Ça permet par une manifestation un peu originale, montrer que nous, sur le terrain, on est capable de nous dépenser, de transpirer pour des réformes qui sont entreprises déjà depuis 6 mois par des ministres.
Mademoiselle, vous avez l'air très motivée, vous pouvez m'expliquer.
Ah, moi, je suis hyper motivée, quoi. Voilà, on est tous des jeunes, on est des jeunes sportifs, travailleurs, et voilà, ils font pas peur de s'engager.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, des grèves des lycéens? Parce que c'est amusant de voir qu'il y a deux jeunesses en France en ce moment.
Je suis moi-même lycéen en ce moment, donc je suis tout à fait concerné. Tout ce que je demande, c'est qu'on puisse enfin aller en cours, et qu'on n'ait pas des lycées qui soient bloqués par une minorité d'élèves qui décident plus ou moins de faire grève pour une réforme qu'ils connaissent à peine. Les Français sont pas tant dévots que ça, pour contredire le général de Gaulle. Mais je pense que de toute façon, aujourd'hui, le système est comme il est. Pour l'accepter comme il est, il faut se débrouiller comme il est aujourd'hui. De toute façon, il y aura toujours des élites, quoi qu'il arrive. Et je pense qu'on arrivera à quelque chose de positif et on arrivera enfin à être compris. Et donc les réformes passeront toutes seules. Et je pense qu'il va falloir que j'y aille, là.
Il va falloir que vous alliez courir.
Ouais. C'est pour ça qu'on est là, à vrai dire.
C'est vrai.
Il y a le secrétaire général de l'UMP.
Expliquez-moi ce que vous faites là.
Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nos jeunes
Patrick lancent
une grande marche Jusqu'au Champ de Mars, du Luxembourg au Champ de Mars, pour la promotion et le soutien des réformes. C'est de montrer que nous avons une jeunesse dynamique qui est consciente des enjeux de son avenir et que ces réformes sont destinées à donner une France qui sera plus à même de répondre à leurs aspirations. Et donc ces réformes, c'est d'abord pour eux. Vous savez, c'est pas parce qu'on dépense plus que ça va mieux. Parce que souvent, on dépense inconsidérément. Donc, il faut dépenser utile. Voilà.
Alors justement, c'est intéressant, Monsieur Devedjian, juste une dernière question. Il y a d'autres manifestants. Non, mais sur l'immigration jetable, et notamment,
je m'en vais quand même.
Il y a eu un décès. Non, mais c'est important.
Pourquoi ? Vous cassez la gueule ?
Non.
Bah alors.
Monsieur, parce que là, il y a le défilé qui arrive, qui vient vers vous, donc vous estimez qu'il faut partir. Mais justement, ils manifestent contre l'immigration jetable, et il y a eu un décès.
Absolument que je reste là.
Je voulais avoir votre avis, donc vous partez. Non mais pourquoi vous partez, vous ?
Je pense que vous cherchez l'incident.
Je cherche absolument pas l'incident, voilà.
Je n'ai pas l'intention de vous faire ce plaisir.
Mais ils ne vont pas vous agresser.
Je vous réponds.
Non mais ce sont de simples manifestants qui sont contre l'immigration jetable.
Je vous ai répondu.
Mais monsieur Devedjian, expliquez-moi,
Allez-vous-en.
Votre manifestation est obligée de se déplacer assez rapidement. Monsieur Devedjian a demandé de vite partir.
Mais bien sûr, c'est assez logique. On n'est pas là pour ça.
Mettre en sécurité peut-être.
Allez-vous-en. Et vous aussi.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé ? Alors, c'était les manifestants qui manifestent contre l'immigration jetable ?
Je sais pas, je suis pas au courant. Là, je suis pas au courant, je viens d'arriver aujourd'hui puisqu'on faisait le footing pour les réformes. Je savais pas qu'il y avait une manifestation. On se retrouve là, c'est comme ça, voilà.
Et monsieur Devedjian est en train de partir en vous demandant justement de partir.
On est parti, mais en tout cas, personnellement, c'est bien passé.
Il y a eu encore un décès aujourd'hui, et là, on vous...
C'est un cas très malheureux. Je pense surtout qu'il ne doit pas être exploité à des fins politiques, tout simplement.
Alors voilà, ah oui, c'est le télescopage de deux manifestations. La manifestation de ces jeunes de l'UMP, des jeunes pop, qui faisaient ce footing pour les réformes. Ils devaient être soutenus par Basile Boli, secrétaire national en charge du co-développement, mais qui n'est pas venu. Et donc, vous l'avez entendu, de Patrick Devedjian, mais qui n'a pas souhaité rester en voyant arriver l'autre manifestation. Il a préféré s'éclipser, monsieur Devedjian, courageusement. Alors bon, l'autre manifestation, donc contre l'immigration jetable, était assez, on va dire, alourdie par la mort, le suicide de Baba Traoré, ce sans-papier décédé vendredi en se jetant dans la Marne pour échapper à un contrôle de police. Il faut rappeler que ce garçon, Baba Traoré, était venu en France en 2004 pour donner un rein à sa sœur Maïmouna Traoré. Et Guillaume Diallo, l'oncle du jeune Traoré, a déclaré que les démarches administratives pour sa venue en France avaient été effectuées par l'hôpital et son billet d'avion payé par le ministre de la Santé. Alors évidemment, les déclarations officielles, c'est que c'est un incident, que ce jeune homme a glissé et que quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, évidemment, doit répondre aux interpellations de la police. Voilà, des échos de cette manifestation de samedi, donc, contre l'immigration jetable.
Tu travailles dans un resto, tu ne peux rien faire. Tu as peur, tu n'as pas de papier, tu as peur qu'on sache que tu n'as pas de papier. Nous, on pensait que la France est un pays de droit de l'homme, mais là, c'est tout à fait le contraire maintenant. On voit des choses qu'on n'a jamais vues dans ce pays-là, et ça devient plus en plus dur.
Ça fait combien de temps que vous êtes en France ?
Je suis arrivé là depuis 2000. Depuis 2000, je travaille sans papier, et j'ai tous les bulletins, j'ai tout, et on cotise.
Quand vous travaillez, vous êtes payé combien à peu près ?
Mais toujours au SMIC, 900-950 euros, ou maximum 1000 euros. Ça ne dépasse pas là. Tu n'as pas de l'heure, c'est-à-dire que tu peux faire 9 heures par jour ou bien 7 heures, 8 heures. Ça dépend au temps que tu as fini, qu'il n'a plus besoin de toi.
Vous, votre patron, il sait que vous êtes sans papier ?
Bon, là, au moment, c'est-à-dire des lois qui sont sorties, en pensant que si je lui ai dit, c'est-à-dire qu'il va me faire quelque chose, j'ai été licencié.
Vous avez été licencié ?
Oui, je lui ai dit directement, je n'ai pas de papier. J'ai été licencié et on avait passé presque 5 ans ensemble. On ne peut pas rester sans travail, on ne peut pas. Et on a beaucoup de choses à faire derrière. On a une centaine de monde pour vivre, c'est nous qui le font vivre, avec paix qu'on gagne ici, pour vivre ici et leur vivre là-bas. Je paye 650 euros par mois, le loyer. Là, je suis avec mon frère qui m'héberge. C'est-à-dire, il ramène un peu, je ramène un peu, et puis on paye le loyer.
Vous envoyez combien d'argent par mois à peu près?
Chaque mois, il faut envoyer 400 euros.
Chaque mois, 400 euros?
Chaque mois, il faut envoyer 400 euros.
Mais combien il vous reste? Puisque si vous payez 650 euros...
Comme je suis avec mon frère, il l'amène un peu, je l'amène un peu.
Ben, Jean-Claude Amara, porte-parole de Droit Devant. Ben, déjà, il y a plein de gens qui ne savent pas tout le budget que représentent les expulsions de sans-papiers. On a fait un calcul qu'une expulsion de sans-papiers revient à peu près à 9000 euros par sans-papiers. C'est-à-dire le voyage avec l'escorte des gendarmes, de camps de rétention, etc. etc. 9000 euros par sans-papiers. Si on calcule 9000 euros multiplié par 24 000 chiffres dont ils ont parlé l'année dernière, on arrive à un chiffre absolument abyssal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette somme d'argent, elle est pompée sur l'aide publique au développement que doit normalement verser la France, selon son engagement envers l'ONU en 1970, aux pays les moins avancés, aux pays les plus pauvres, qui déjà est réduite à peau de chagrin. Et on atteint donc une incohérence économique absolument scandaleuse par rapport au petit contribuable qui ne sait même pas qu'une partie de son argent, en fait, est pompée uniquement pour satisfaire l'électoralisme de Sarkozy. Et ça, c'est particulièrement honteux. Donc, ce qui veut dire que là, ils sont en train de développer un climat de peur, un climat de terreur chez les sans-papiers. On est déjà à 5 sans-papiers, là, qui, depuis quelques mois, ont été acculés à l'ultimité, comme ce jeune garçon de 29 ans, hier, qui a sauté à la Seine pour échapper à la police. Il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Cette ligne rouge, elle est maintenant franchie. La lutte, elle est quoi qu'il en soit en marche. Et ce gouvernement, à un moment donné, sera obligé de plier. L'écrasante majorité des 400 à 500 000 travailleurs sans papier en France ont leur fiche de paye, cotisent aux caisses de sécurité sociale, aux caisses de retraite, aux caisses ASEDIC, retraite dont ils ne verront jamais la queue d'une cerise, ASEDIC alors que lorsqu'un travailleur sans papier est licencié, il est toujours au centime de l'indemnité. Nous, on a vu par exemple les travailleurs de la Grande Armée, les cuisiniers qui ont été régularisés par la lutte qu'on a menée. Ils faisaient pour chacun 3 postes en un. Travailler le dimanche, les jours fériés, les heures supplémentaires non payées, les congés payés non payés. Donc il est clair que c'est une manne d'exploitation énorme pour le patronat et le gouvernement. Mais le pire de tout, pour revenir aux expulsions, c'est que chaque fois qu'un sans-papier travailleur est expulsé, retourne dans son pays, on est allé au Mali il n'y a pas longtemps et on a vu des camarades qui ont été expulsés, on a fait le calcul avec eux, des dizaines de milliers d'euros qu'ils ont versés pendant leur période d'activité en France, au niveau des caisses de retraite, etc., et qui, en fait, sont récupérés par l'État français. Ça veut dire que, donc, l'État français rackette des sans-papiers qui sont expulsés et profite allègrement de leurs cotisations qui ont été versées. Donc, ça veut dire que le sans-papier, aujourd'hui, est d'un côté le gibier privilégié du politicien en mal d'électoralisme, en mal d'électorat, et de l'autre côté, l'esclave tout trouvé pour un patronat en mal de main-d'œuvre. Donc, entre dans l'étau de l'exploitation et de la répression, le sans-papier, en fait, il est ballotté là-dedans. Et c'est cet étau qu'il faut casser.
C'est pas les immigrés, c'est la loi qu'il faut changer.
Vous venez de quel pays ?
Je viens de la Mauritanie. Je suis là depuis 2000, donc j'ai déposé mon dossier de réfugié politique. On m'a refusé depuis 2000. On a fui la Mauritanie, on pensait que c'est-à-dire la France va nous accueillir, mais c'est tout à fait le contraire. On est là à vivre, c'est-à-dire, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Si tu n'as pas de papier, tu ne peux rien faire. Sinon, on veut bien, c'est-à-dire vivre comme tout le monde. Mais on n'a pas le choix. Ça, c'est la honte pour la France. Mais regarde, vivre ici sans papier, c'est-à-dire, c'est la manière la plus difficile de vivre en France sans papier. Si tu vois des policiers, tu as peur au ventre. Tu es au travail, tu as peur au ventre. Hier, il y a un de nous qui vient de perdre sa vie pour rien. C'est pas ça la vie. Ça devient plus dur, ça devient plus violent. Ce n'est plus l'appel de vivre en France maintenant. Parce que si tu vis sans papier, c'est-à-dire que tu n'es rien.
on ne te considère même pas. Même avec tes collègues qui ont tes papiers, qui ont eu la chance d'avoir des papiers, ils ne te considèrent pas. Surtout, c'est-à-dire le gouvernement français qui est là aujourd'hui. Donc, on ne sait pas quoi faire. Le mieux, c'est de rentrer au pays. Au moins, c'est-à-dire là, on nous respecte. Mais là, on ne nous respecte plus. On n'a plus de respect. S'il s'agit de faire la prison, le mieux, c'est de rentrer chez toi.
Aquí está el río. Vamos cruzando el río. Bienvenidos a México.
Là, on croise la rivière, donc bienvenue au Mexique.
Estamos queriendo intentar cruzar para aquel lado.
Nous, on est là pour essayer de traverser. On cherche un moyen.
Yes, we have an invasion.
C'est une invasion qui est en cours.
Limpio oficinas en la noche.
Elle fait du ménage la nuit dans les bureaux.
Pues es el sueño americano, es el sueño de todo mexicano que quiere estar allá.
C'est le rêve de tous les Mexicains qui veulent aller là-bas.
En fait, ce qu'il y a de l'autre côté, c'est une menace.
That's correct.
C'est correct.
La base es suicide.
Es radio nomás, radio.
Get back out. Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben, si j'y suis avec Antoine Chao et Guy Vanctil en route pour Tijuana, le tourniquet de Tijuana.
Flight number 2, arriving.
Là, c'est la frontière. Là, c'est vraiment la frontière. Welcome to Tijuana. C'est écrit là, devant nous, sur ces magasins tout jaunes. Welcome to Tijuana, Mexico. Mexico. Et qui est-ce qui voit ça en arrivant? C'est tous ceux qui viennent de passer par ce tunnel métallique. Et chaque cloc-cloc qu'on entend là, cloc-cloc, c'est le tourniquet, mais qui ne tourne pas dans l'autre sens. Hein. Ça, c'est pour entrer ici. C'est très facile d'entrer ici au Mexique. C'est beaucoup plus compliqué d'en sortir. Beaucoup plus compliqué d'en sortir. Il faudrait écouter le tourniquet dans l'autre sens. Ça doit passer toutes les 10 minutes. Tu dois entendre le petit truc, hein, le petit cloc-cloc. Là, c'est très facile. Et là, on a la frontière. On a la frontière avec la colline qui sépare San Diego de Tijuana. Et les premières choses que tu peux trouver en arrivant ici à Tijuana, c'est drug discounters, c'est-à-dire des pharmacies qui te font des prix. Hein, sur les médicaments, tous les prix possibles. T'as un McDonald's, voilà. Et là, t'as un dentiste, on peut te refaire toutes les dents.
Chirurgie esthétique un peu plus loin.
Et les lunettes aussi, parce qu'ici, l'avantage par rapport aux États-Unis, c'est quand tu viens de faire des lunettes, tu payes pas la consultation pour l'ophtalmo, ce qui coûte très cher aux États-Unis.
Voilà, donc c'est une des raisons pour lesquelles les gens viennent ici, quoi. À Tijuana. C'est pas les seules raisons, mais en tous les cas, c'est ce qui les attend tout de suite à l'arrivée. Welcome to Tijuana.
Y después el barrio así caliente donde la gente va a tomar, está lejos. Le quartier chaud, il est loin d'ici après?
No, está muy lejos, en la noche vamos.
Non, c'est pas très loin, ce soir je vous emmène.
D'accord. Ok. Voilà, bienvenue à Tijuana, 3114 km depuis Brownsville. On est tout au bout de la frontière, on est tout à l'ouest de la frontière. Tijuana, c'est du côté mexicain et du côté des États-Unis, c'est San Diego. San Diego, une ville magnifique, superbe, avec une baie splendide, vraiment. C'est joli, c'est vert, c'est agréable, des jolies maisons, et un endroit tout à fait agréable à vivre. Et puis, on franchit la frontière très facilement, avec ce tourniquet, si vous passez à pied, cloc, cloc, cloc. Mais alors, pour rentrer de l'autre côté, ça, c'est toute une affaire. C'est très compliqué, c'est des heures et des heures de queue si vous passez en voiture, et vous devez montrer, alors, patte blanche, c'est vraiment le cas de le dire. Et puis, il y a ses parents, Tijuana de San Diego, véritablement rideau de fer. Rideau de fer, c'est une image, bien sûr, c'est une métaphore. Et bien là, c'est une vérité, c'est une réalité, c'est un vrai rideau qu'on se fait de barres d'acier plantées dans le sable qui coupe la plage en deux et qui avance un peu dans la mer. Et ces barres d'acier sont des rails. sont des rails de chemin de fer qui sont enfoncés dans le sable. C'est à la fois terrifiant et en même temps symbolique, puisque on peut passer entre ces barres d'acier. Il suffit d'être un peu mince, de se serrer. On peut tout à fait passer. On a voulu séparer. Il faut bien séparer les torchons et les serviettes. C'est quand même bien de ça dont il s'agit. C'est pas seulement de séparer des peuples. L'un serait menaçant, menacerait la culture de l'autre, selon cette construction de la guerre des civilisations qui, chez nous, se renforce de plus en plus. Une guerre contre l'islam, contre l'islamisme, contre les arabes. Allez hop, passons à travers le champ, allons plus vite. Là, ce serait contre... Eh bien, ces Mexicains qui ont des arrière-pensées de reconquérir les territoires perdus au XIXe siècle. Ce fantasme-là, il est, on l'a vu, entretenu, agité, brandi par un certain nombre de défenseurs de cette frontière. Et puis, il y a ceux qui comprennent très bien qu'il s'agit, comme le disait à l'instant Jean-Claude Amara, d'une simple affaire d'exploitation, éternelle exploitation de l'homme par l'homme, de l'État-unien exploitant le Mexicain. Donc voilà, aujourd'hui, on arrive sur cette frontière. On a passé un peu de temps à San Diego, d'abord, et puis là, nous voici à Tijuana, jusqu'à 16h. Là-bas, c'est Jésus.
La base es Jesuit.
¿Cuál es la ciudad que siempre representa?
Tijuana.
¿Cuál es la ciudad que siempre está bien peda?
Tijuana.
¿De cuál es la ciudad?
Tijuana.
¿De cuál es la ciudad?
Tijuana.
¿Cuál es la ciudad?
Tijuana. Tijuana.
Aquí vamos de nuevo, súbete a mi tren. Te voy a enseñar lo que debes conocer. Es mi linda Tijuana, ciudad mexicana, frontera americana, pero ahora ponte calma. Pues te voy a explicar para que sepas de una vez los sitios preferidos de un tijuanés. Y todo comienza en la libertad. Voltea hacia cero para encontrar amistad. Verde, blanco, rojo son los colores. Son un tubo tan alto como las dos torres. Y ahora me paso a la revolución. Y no hablo de guerra, sino de fiesta. Es la calle elegida de los turistas, donde gastan el dinero los congresistas. Siempre meto una parte más de todo mi Baja Califa.
¿Cuál es la ciudad que siempre representa?
Tijuana. ¿Cuál es la ciudad que siempre está bien peda?
Tijuana.
¿De cuál es la ciudad?
Tijuana.
¿De cuál es la ciudad?
Tijuana.
¿Cuál es la ciudad?
Tijuana. Tijuana.
Y si quieres saber de las mujeres, aquí están las que tú más prefieres. Aquí están las que más te encienden. Y si no, pues ven y aprende, para que mires cómo te entretienes. 105-10 y Mariano Matamoros, donde yo para ti me expongo. Pero ahora vuelvo al tema, dándome la vuelta. Pero no pude evitar voltear a la cacho. Me quedé colgado como un gancho. Vieron tantas casas, tan grandes como un rancho. Pues escuchando sonidos se siente bien fino. Aprende lo que digo, mi amigo. Y bienvenido, y bienvenido, y bienvenido.
¿Cuál es la ciudad que siempre representa?
Tijuana. ¿Cuál es la ciudad que siempre está bien peda?
Première chose à Tijuana, petit matin, qui est 11h du matin, pour nos copains Coco, Madame et Hervé, Monsieur Marco, dont on va parler, et bien c'est d'aller manger. On commence par manger et on va dans la... Comment ça s'appelle ce genre d'endroit ?
La taqueria.
La taqueria, où on fait des tacos. Des tacos de marisco, des tacos de poisson, de coquillages, de toutes sortes de fruits de mer. Et tout de suite, vraiment, là, s'il y a une frontière, elle est bien là. Déjà, celle-là, c'est la vie, quoi. C'est la vitalité. Le bordel, la vie, la couleur, la poussière, tout un tas de scènes.
L'énergie,
la pauvreté. Mais il y a quand même tout ça, quoi. C'est ça la grande différence. Même si il y a cette immense pauvreté qui vient s'écraser contre cette frontière. Alors, évidemment, la réputation... Il n'y a pas beaucoup de villes au monde qui ont une plus mauvaise réputation que Tijuana. Pourquoi vous vivez de ce côté-là alors que vous pourriez vivre de l'autre côté, Coco et toi, Marco? Pourquoi vous vivez de ce côté-ci?
Aquí, bueno, nosotros nacimos aquí.
Bah nous, on est nés ici d'abord. Hein.
Hemos vivido en Estados Unidos, pero a mí no me gusta el sistema de vida norteamericano ni me gusta vivir en una sociedad así tan aislada que.
Alors nous, on a vécu là-bas aux États-Unis, hein, mais on n'aime pas le mode de vie américain où tout le monde est isolé. Où...
O sea, yo necesito el ruido, necesito, como te decía, el polvo,
moi,
la mugre.
Du bruit. de la rue, de la foule,
et inclusive,
de la
poussière. Hasta el peligro un poquito, ¿no? O sea,
et même le danger qu'il y a ici, ça, j'en ai besoin.
Sinon, no siento que tenga que esté viviendo, siento que estoy nada más aletargado, sobreviviendo.
Sinon, j'ai pas l'impression de vivre, quoi. J'ai l'impression d'être dans un état léthargique.
Aseptisé. Le danger est réel ou bien c'est un jeu ou bien c'est un mythe?
Bueno, el peligro es real, no es constante, no es dirigido a uno específicamente. Aquí todavía la gente no entra a matar a todos en un restaurante o a una familia.
Il y a de la violence, effectivement, mais ce n'est pas de la violence aveugle. Donc, il se passe des choses, mais bon, on ne va pas se faire là, assassiner dans un restaurant.
Si tú estás enmiscuido en el narcotráfico, en ese tipo de nivel, entonces es que tú corres más peligro. Pero si uno no se involucra con esa gente, es menos probable que te pase algo, ¿no?
Donc la violence, elle existe, mais dans certains milieux. Donc effectivement, dans le milieu des narcotrafiquants, il y a de la violence. Mais si tu es pas lié à ce milieu-là, tu cours pas un danger. Donc nous, on n'est pas en danger ici.
Las balas tienen nombre, pues. Cada bala ya trae un nombre. Ya trae un nombre, ya va dirigida a una persona. Que puede de repente pegarle a otra, pero es algo como algo fortuito, ¿no?
Les balles, elles ont tout un nom déjà inscrit dessus, elles sont déjà destinées à quelqu'un. Alors si elles, effectivement, il y a des balles perdues, mais en général, c'est destiné à quelqu'un et la victime était prévue.
Ça, la réputation de Tijuana a une très très mauvaise réputation. Et nos amis Marco et Coco nous rassurent. Alors, bon, on va leur faire confiance. On va leur faire confiance et essayer de profiter un peu de cette ville assez folle, assez cinglée. On va aller s'y balader de nuit aussi, assez folle et assez cinglée, par rapport surtout à San Diego, de l'autre côté, si calme, si rangée, si belle, si bien peignée, avec ses petits jardins manucurés. Et là, c'est quand même c'est tout à fait autre chose. Il y a de la vie, il y a de l'énergie et de la tristesse aussi, et une infinie tristesse quand on va vers la plage, cette fameuse plage qui est coupée, tranchée en deux par ce rideau de fer, ce fameux rideau de fer. Et juste au-dessus, il y a un grand parc, et ce parc lui aussi est divisé et partagé en deux par un grillage, un simple grillage. Et c'est pathétique parce que des gens qui sont séparés du côté États-Unis, du côté mexicain, par ce simple grillage qui viennent se parler, s'entrevoir à travers les mailles de ce grillage. Et on voit au ras du sol, plus bas, enfin la partie basse de ce grillage, des trous donc, et qui sont raccommodés comme ça. Alors on comprend que certaines passent par ces grillages, et puis alors quelqu'un les rebouche, recoue ces trous. C'est quelque chose de tout à fait pathétique.
Sí, deberían entrevistar a gente. No, de repente ya no pueden pasar, la que está allá no puede venir a México. O ellos no pueden ir hacia allá, entonces la única forma de platicar es a través del muro.
Ça, c'est des familles qui ont plus le droit de passer de l'autre côté. Donc, ils viennent discuter avec leur famille ici. Gracias.
Hola.
Buenos días.
Alors, il y a un grillage, là, qui fait 5 mm d'épaisseur. Et d'un côté, c'est les États-Unis, de ce côté-ci, c'est le Mexique. Et
nous, on est des Mexicains sans papiers et on n'a pas le droit d'aller rendre visite.
Ella sí tiene papeles.
Elle a des papiers.
Et este muchachito, que es mi hijo, no tenía papeles y lo mandaron a México.
Et mon petit garçon, voilà, il est séparé de sa femme maintenant parce que lui, il n'avait pas de papiers, il a été expulsé.
A los niños entonces, también, todo.
Et les enfants aussi, les enfants aussi ont été expulsés.
Son dos niños, uno de 5 y otro de 3.
Il y a ces deux enfants, un qui a 5 ans et l'autre qui a 3 ans.
Sí. Y y ahorita venimos a visitarla para platicar un rato con ella, a ver si estamos arreglando los papeles con licenciados para poder que pase ya.
Et maintenant, donc aujourd'hui on est venu la voir pour discuter avec elle, pour faire le point parce qu'on fait des démarches avec des avocats pour essayer d'avoir à nouveau des papiers.
Et toute la journée, c'est comme ça. Toute la journée, il y a des gens qui sont dans des situations comme la vôtre, qui viennent se voir là, parler, parce qu'on voit des trous dans le grillage. Partout, le grillage est défoncé. Sábado
y domingo nomás vienen para visitarlos a las que no tienen, los que están allá, para que los que no tienen papeles, pues platicamos como familiares.
Voilà, c'est les familles qui se retrouvent ici pour discuter, enfin les familles séparées par ce problème de papier.
Depuis quand vous êtes séparés comme ça?
Hace seis meses.
Ça fait six mois que c'est arrivé.
Seis meses y a mí me mandaron para acá, pero ya estoy agarrando papeles para cruzarme para allá, para trabajar allá y estar juntos todos.
Et moi, là, je suis en train d'essayer de régler ces histoires de papier pour qu'on puisse se réunir à nouveau tous de l'autre côté.
Depuis combien de temps tu vivais là-bas?
Yo, cuatro años.
Ça faisait quatre ans que je vivais là-bas.
Trabajar en construcción.
Je travaillais dans la construction, j'étais maçon.
Et ta femme, elle a du travail? Vous avez du travail?
Si.
Limpio oficinas en la noche.
Elle fait du ménage la nuit dans les bureaux.
Combien on gagne quand on fait le ménage comme ça la nuit dans les bureaux?
$8 la hora.
$8 de l'heure, on me donne.
Et ici, de ce côté-ci, le même travail à Tijuana, c'est combien?
Non, 100 pesos diarios.
Là, ici, c'est 100 pesos. $10. $10 par jour.
Tandis que là-bas, c'est $8 de l'heure. Si. Et là, vous avez pas envie de revenir au Mexique? C'est à faire comme ça, vous êtes sûr de vous retrouver tous ensemble si vous revenez au Mexique?
Non. Quiero que ellos crucen para acá.
Non, moi je veux que ce soit eux qui viennent me retrouver de l'autre côté, aux États-Unis.
même si ça doit durer longtemps, même si c'est très dur.
Si, acá no está muy mal en México.
Ici, au Mexique, tout va mal.
El gobierno nomás roba y roba.
Le gouvernement, il fait que voler, c'est tout ce qu'il fait.
Si, robando nomás.
Hay mucha gente de drogas, secuestros, todo eso aquí en Tijuana ahorita.
Ici, Tijuana, il y a beaucoup de drogues, il y a beaucoup d'enlèvements.
Y por eso también queremos irnos para allá.
C'est pour ça qu'on veut partir aussi. C'est trop dangereux ici.
Como allá en Moscú. Como es el muro ese que tuvieron que
tomar. C'est comme à Moscou maintenant ici, comme ils avaient là le mur. Là.
Comment ça s'appelle? Ah, el muro de Berlín.
Voilà, le mur de Merlin. Sí. C'était le mur de Berlin.
¿Verdad? Muro de Berlín, sí. Uh-huh. Y luego también la muralla china.
Et c'est comme la muralla de Chine aussi, c'est pareil.
Ajá, también. Uh-huh. O sea, que estamos igual.
Ici, on est pareil que là-bas maintenant.
Alors, on est avec des amis qui sont Marco et Coco. Elle, c'est Coco, et lui, c'est Marco. Marco, il a un nom d'artiste, parce que c'est un artiste. Il s'appelle Erre. Erre, c'est un peintre, sculpteur, qui fait des installations, des interventions. Très, très belles, on vous en reparlera. Très intéressante, très, très engagée aussi, il faut bien dire. Et lui, il vit à cheval sur la frontière. Mais il aime, il vient de nous le dire, ce milieu, cette tension qu'il y a dans cette ville de Tijuana. Il n'est pas concerné directement, évidemment, par les problèmes de ses compatriotes mexicains qui chaque jour passent par cette frontière, tentent de franchir cette frontière. C'est la frontière la plus fréquentée du monde, celle où nous sommes entre San Diego et Tijuana. Chaque année, 60 millions de personnes, 60 millions de personnes franchissent cette frontière et 30 millions de véhicules la franchissent. 40 000 personnes venant du Mexique la traversent chaque jour pour aller travailler aux États-Unis. Mais lui, il a un regard engagé là-dessus. Il a un regard très, très engagé. Marco.
Peligro. Vous voyez, c'est peligro, corrientes peligrosas.
Là, il y a un panneau qui dit attention, il y a du courant. Corrientes, en el agua, ya de
en el agua, pero metafóricamente, pues también.
Mais c'est une métaphore du grillage qui pourrait être électrifié.
Este parque se llamó, lo pusieron el parque de la amistad.
Donc ce parc-là, c'est le parc de l'amitié, ils l'ont appelé le parc de l'amitié.
Y está solo, porque no dejan ahora que la gente entre, pues. Es una amistad que está truncada, ¿no?
Et c'est une amitié tronquée, parce qu'on ne laisse même plus les gens aller dans ce parc maintenant.
Lo que hace más irónico esto. Es que entre México y Estados Unidos hay un tratado de libre comercio.
Ce qui est plus ironique, c'est qu'entre les États-Unis et le Mexique, il y a un traité de libre commerce.
Se supone que son países aliados.
Ce sont deux pays alliés, on suppose.
Aliados y socios comerciales.
Et des partenaires commerciaux.
Entonces que se presente una situación de estas en la que haya un cerco, o sea, el primer mundo chocando con el tercer mundo.
Alors là, c'est d'autant plus paradoxal qu'il y a cette barrière ici, c'est vraiment le premier monde qui se protège du tiers monde.
C'est ça. C'est la guerre économique.
Pues, más que guerra, es una opresión económica.
Oui, c'est plutôt une oppression économique.
O sea, la economía de México depende mucho de la economía norteamericana.
Parce que l'économie mexicaine dépend de l'économie nord-américaine.
Por ejemplo, nosotros proveemos de mano de obra barata de Estados Unidos, que luego, por medio de la retórica, se dice que es una migración ilegal à laquelle ils ne reconnaissent comme une apportation économique, non?
Donc nous on fournit de la main d'œuvre pas chère aux États-Unis que eux considèrent comme de la main d'œuvre illégale, mais en fait c'est une main d'œuvre.
C'est ça. Un double discours.
C'est un double discours. C'est une main d'œuvre indispensable là-bas. C'est un double discours.
Entonces, cuando la economía norteamericana necesita de la mano de obra y está en boga, entonces el muro, los que vigilan el muro se hacen pendejos, como que no ven nada y los dejan pasar. Pero
cuando hay un besoin de mano de obra particular, alors les gardes barrières, les border patrols sont beaucoup moins vigilants a ce moment-là.
Limite de la República Mexicana.
Mexicana. Punto inicial des limites entre México y los Estados Unidos. Le point initial de la limite entre le Mexique et les États-Unis, fixé par la Commission unie du 10 octobre 1849, selon le traité conclu dans la ville de Guadalupe Hidalgo le 2 février 1848 après Jésus-Christ.
Ça, c'est le point extrême des États-Unis à l'ouest, avec la frontière du Mexique. C'est un point de vue, c'est un lieu de balade et on vient admirer, en tous les cas contempler, la séparation matérialisée par ces plaques d'acier et ensuite par ces poteaux d'acier qui sont des rails qui traversent la plage, qui coupent la plage en deux et qui vont jusqu'à la mer. Mais ce qu'on voit là, c'est qu'un n'importe quel nageur peut faire le tour et passer de l'autre côté. Alors, je ne sais pas ce qui lui arrive s'il passe de l'autre côté, cela dit. Hein. Mais c'est un paysage magnifique. Regarde ça, sauf que là-bas, on aperçoit d'autres barrières. Et ça doit être des trucs virtuels, des caméras. Ça doit être éclairé la nuit, tu vois. On aperçoit des projecteurs là au-dessus.
Il y a une Jeep des Border Patrol au-dessus qui surveille.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Mira el letrero en español. Peligro fierros vato del auga.
Donc là, il y a les Américains qui ont mis deux panneaux. Danger objects underwater. Et de l'autre côté, ils ont essayé de l'écrire en espagnol, mais c'est bourré de fautes d'orthographe, quoi. Peligro au lieu de peligro. Fierros vato del agua. C'est bajo del agua. Ils ont mis vato del auga. C'est une manque de respect,
non ?
C'est un manque de respect total, quoi. Ils sont même pas capables d'écrire un panneau en espagnol.
À des petites choses comme ça, on sent l'humiliation ressentie par les Mexicains face à ce mur, face à ce refus, à ce rejet, cette violence extraordinaire, symbolique, et pas seulement symbolique, on l'a vu tout au cours de ce voyage le long de la frontière, la violence, elle est bel et bien là, mais là, elle est en grande partie symbolique. Et c'est des millions de Sud-Américains qui la ressentent. Ce sont des choses qui ne sont pas évidemment, qui ne s'oublient pas, qui ne seront pas sans lendemain.
Hola, buenos días. Es radio nomás, radio.
Estamos queriendo intentar cruzar para aquel lado.
No, on est là pour essayer de traverser. On cherche un moyen.
Pues hemos mirado que a veces gente que sí pasa, pero vamos a ver qué tal nos va a nosotros.
Ben, on sait que parfois il y a des gens qui arrivent à traverser ici, alors nous on va tenter notre chance.
Comme ça tout simplement.
Sí, corriendo.
Ben, on traverse, on se met à courir.
Ahí, et
on
puede entrar entre esos tubos. Los están abiertos.
Là, tu passes là à l'endroit où les rails sont un peu écartés, puis tu cours.
Et puis tu cours jusqu'où? Mais attends, après il y a d'autres barrières, il y a d'autres.
Non,
il n'y a plus rien après, t'es arrivé. Mais
tu vas pas nous dire que c'est aussi simple que ça quand même.
Non,
mais il y a beaucoup de policiers là.
Des caballos, motos.
Il y a des chevaux, des policiers en moto.
Tu es déjà passé de l'autre côté?
J'ai passé une fois par ici, mais je veux revenir y passer autre fois.
Moi, je suis déjà passé une fois par ici.
Sont 40 minutes.
C'est 40 minutes à courir.
T'es capable de les faire, les 40 minutes à courir?
Si.
Avec ton copain, tous les deux?
T'as même pour courir plus lento.
Mais mon copain, il est plus gros, il court moins vite que moi.
Non, ici, là, c'est facile. Il faut echarle la lucha pour être de quel lado.
Non, mais il faut batailler, il faut lutter, quoi. Hein. Donc tu tentes ton coup, là.
Lutter pourquoi? Pourquoi vous voulez absolument passer de l'autre côté?
Si, pour gagner plus d'argent et tout, pour notre famille.
Ben, pour gagner plus d'argent pour nos familles.
D'où tu viens?
De Distrito Federal.
Moi, j'habite Mexico City.
Et tu es venu ici, à Tijuana, pour essayer de passer?
Ça fait 8 jours que je suis là pour ça, oui.
T'as essayé avec des coyotes de faire le passage? Non. Tu veux pas de coyotes?
Mais je n'ai pas de
coyotes. Tout seul?
Non, moi je paye pas de coyotes, c'est trop cher.
Qu'est-ce qui t'arrive si tu te fais piquer?
Ils me llevan à la migration, nada más, et te vuelven a sacar allá la ligne.
Bah écoute, ils m'emmènent à la migration, et puis après ils me ressortent à la frontière de l'autre côté, un peu plus loin.
Donc tu vas essayer là?
Non, la noche, quand l'entramos.
Non, c'est le soir qu'on essaye, qu'on tente le coup.
Si hay lluvia, mejor. Si hay brisa, mejor.
S'il pleut, c'est mieux. S'il y a du vent, c'est mieux.
Porque miran menos.
Parce qu'ils peuvent moins voir, ils peuvent moins te repérer.
No sé cuántos pasan, pero sí pasan.
Je sais pas combien il y en a qui passent, mais tous les soirs, il y en a qui tentent leur coup et qui arrivent.
La noche está bien la onda aquí.
Donc ici, le soir, il y a une bonne ambiance, quoi. Il y a plein de gens qui viennent pour ça.
Ah bon?
Yeah. Fun.
Mais est-ce que c'est pas aussi un jeu, quand même? Est-ce que c'est pas comme un sport?
Non, ce sont un jeu. Non, lo vemos como un juego, lo vemos como que queremos pasar a fuerzas.
Non, nous, on voit pas ça comme un jeu, nous, il faut qu'on passe.
Querer trabajar, sacar más dinero y todo.
On n'a pas le choix, quoi.
Está muy difícil, luego.
Il faut qu'on passe, la vie est trop difficile ici, quoi. Il faut qu'on passe de l'autre côté pour s'en sortir.
Sí. Voilà. Ben, bonne chance, hein.
Buena suerte, entonces. Bueno.
Allez.
Ciao. Ciao.
Non, regarde, on va aller voir cette famille. Ça, c'est une scène absolument fabuleuse. Derrière ces barreaux, c'est les États-Unis. Et de ce côté-ci, c'est-à-dire du côté du Mexique, du côté de Tijuana, il y a sur le sable toute une famille qui est en rond, comme ça, en cercle, en train de pique-niquer. Et ils sont en train de pique-niquer, et à travers les barreaux, eh ben, ils trinquent et ils échangent de la bouffe. Voilà, il y a quelqu'un qui est de l'autre côté, il y a un garçon qui est de l'autre côté. Et ils sont en train de déjeuner avec lui, sauf que lui, il est derrière les barreaux. Bonjour. Bon appétit. Ah, ça, c'est une scène extraordinaire, hein, quand même. Toute la petite famille, tout le monde est là en train de casser la croûte. Et puis, il y a le... C'est le fils ou c'est qui?
Si. Oui, c'est mon fils, oui.
Le fils américain?
Si. Oui, c'est lui, oui, c'est ça.
Mes hermanas et mes cuñados.
Voilà, c'est mes frères et sœurs qui sont là et mes cousins.
Et donc, ils ont décidé de venir pique-niquer ici, le long de la frontière, le long de ces grands barreaux d'acier, pour être en ta compagnie, pour être avec toi.
Si, c'est bien. Cada fin de semana.
Oui, chaque fin de semaine, ils viennent ici, chaque week-end.
Quand est-ce que tu es passé, toi, ici? Depuis quand tu es aux États-Unis?
Toute ma vie.
Vous savez, toute ma vie, j'étais de l'autre côté, moi.
Tu es né aux États-Unis?
Si.
Ah.
Ouais.
Porque yo sí puedo ir para allá, pero estoy castigado.
Ah, mais moi, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, là, je suis puni, j'ai pas le droit de repasser.
Por pollero.
Moi, je me suis fait attraper parce que je suis un passeur, je suis un pollero.
Ah, d'accord. Donc, tu n'as plus le droit de rentrer au Mexique?
Mon probation est là, quand ça acabe la probation.
Moi, je pourrais revenir quand ma peine sera passée, sera écoulée.
Tu as pris combien de temps?
10 meses.
C'est 10 mois.
10 mois?
Si. Yeah, pero pagué fianza.
J'ai payé une caution.
Donc, tu n'es pas en prison?
En plus, c'est le contraire, il est en prison de l'autre côté.
Oui, non, prison aux États-Unis.
Enfermé.
C'est le contraire.
Mais moi, c'est le contraire de toutes les autres familles. Moi, j'avais envie de rentrer au Mexique.
C'est absurde. Et t'as fait ça pendant combien de temps, de faire le pollero?
Una vez nomás.
Moi, j'ai fait qu'une seule fois.
Une seule fois?
En la línea, en San Isidro.
Et ils m'ont attrapé à la frontière à San Isidro.
Pourquoi tu voulais faire le pollero?
Ocupaba dinero rápido.
Ouais, c'est de l'argent rapide, ça.
Combien tu gagnes? Combien un pollero gagne pour un passage?
2 000, 2 500.
2 000 ou 2 500 dollars.
Total, pour cruzar le carro.
C'est la somme totale pour passer avec une voiture. Et tu comiste ya o estás comiendo? Ya has comido?
No, apenas voy a comer. Apenas voy a comer. ¿Qué están ustedes?
Moi, j'ai pas encore commencé à manger parce que vous êtes là, mais après, je vais me mettre à table.
On te retarde alors. On retarde le déjeuner.
Tienes hambre, disculpa.
Non, ya sé. Mi esposa no sabe comer.
Parce que ma femme, elle fait pas à manger.
C'est elle qui est la plus près de toi, là. Hein. Elle s'est fait jolie, hein. On fait une photo de ta femme. Merci à toutes et à tous. C'était une heure avec un reportage de Pascal Pascariello à Paris, avec les jeunes pop de l'UMP et aussi les manifestants de la manif contre l'immigration jetable. Et puis, sur la frontière, on était avec
Guy Vanctil et Antoine Chao. Merci à Jean-Claude Amara, l'association Droit Devant. Merci à Marco Ramirez, dit Ere, et à son épouse Coco, à Mike Davis, qu'on rencontrera, parce qu'on ne l'a pas encore présenté, celui-là, dans les émissions à venir. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org. Et puis je vous rappelle les coordonnées pour la pétition spéculation et crise, ça suffit. Il faut taper www.stop-finance.org ou bien aller sur là-bas.org où vous retrouvez toutes les précisions sur cette opération lancée par une série d'économistes et de chercheurs. Et puis, il nous reste quelques instants pour que je vous parle de deux bouquins. L'un de Hernando Calvo Ospina sur la Colombie. On parle énormément de la Colombie. On parle beaucoup plus d'Ingrid Betancourt que de la Colombie. Alors nous qui vous avons emmené pour un long voyage en Colombie, on vous conseille ce bouquin, Derrière le rideau de fumée, histoire du terrorisme d'État. Et évidemment, vous comprenez tout de suite qu'on va vous parler des paramilitaires et de la parapolitique avec une préface d'Ignacio Ramonet, c'est au temps des cerises. Et puis, un autre bouquin dont on parlera plus longuement dans les émissions à venir, mais dont je ne résiste pas de vous d'évoquer quelques images, parce qu'il y en a beaucoup, c'est Cuba Miracle. Cuba Miracle, c'est de Ramon Chao, le papa, et Antoine Chao et Wozniak. Antoine a fait un disque de, évidemment, vous ne dites pas, de son, de musique et de commentaires. Ramon Chao a écrit un bouquin formidable sur Cuba qu'il connaît bien et depuis longtemps, et dont il parle en voyageur avisé, mais aussi en voyageur un peu d'Amérique latine, c'est-à-dire qu'il saute d'un sujet à l'autre. Et c'est pas un regard français, c'est un regard de quelqu'un qui est galicien, qui connaît l'Espagne et qui connaît surtout très bien l'Amérique latine, Ramon ayant dirigé le service Amérique latine de RFI pendant des années. Et puis il y a des dessins de Wozniak, vous savez, ce dessinateur du Canard Enchaîné, excellent, là pour une fois c'est en couleur et c'est admirablement mis en scène et mis en page. Je vous conseille de sauter sur ce bouquin, on en reparlera. La technique aujourd'hui, Yann Bouillot et Rémi Quincez, c'est Yann Chouquet et Raphaël Moutet qui ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry qui attend également vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.